Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Judard, le 18 novembre 93.
Nous allons continuer de bien voir la naissance de l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et de voir comment, dans la position de Heidegger, cette interrogation reste comme un sommet. On demeure dans l'interrogation. années pour lui-même. Vous passez du présent à l'infinitif. Et l'infinitif, le verbe, pris sous cette forme de l'infinitif, est pris d'une certaine manière substantiellement pour lui-même. Il devient un nom. Je peux dire l'être est abstrait. L'être est pensé. Donc vous faites du verbe un nom. Un phénomène assez curieux, ça. Comment ça se fait que l'intelligence, qui d'abord se sert du nom et du verbe, tout d'un coup fait que le verbe devient un nom? Le nom d'habitude est concret. C'est ce qui est concret, c'est ce à quoi j'attribue quelque chose. Ceci est. Le ceci, c'est Pierre. Le ceci, c'est la vache. Telle vache. Telle réalité. Et mon intelligence est capable de faire que quelque chose que j'abstrais du réel devient comme un nom. Ça, c'était la grosse question de tous les logiciens. La supposition, c'est le terme de supposition, supponite. Comment se fait-il? Le nom est fait pour qu'on attribue à lui tous les attributs. Et l'intelligence est capable de transformer l'attribut en nom. Puisqu'elle, ceci est l'être, est intelligible. L'être est abstrait. L'être est un nom. Quand on dit métaphysique de l'être, il faut voir ce que ça veut dire. Hein. On devrait dire métaphysique de ce qui est en tant qu'il est. C'est pas très commode en français. Alors dit métaphysique de l'être. Ah oui, oui, c'est pas juste. Parce qu'on fait pas la métaphysique de l'être abstrait. On est tellement habitué qu'on ne voit pas ce qu'il y a d'anormal à ça. Parce qu'on étudie ce qui existe. Or l'être, est-ce qu'il existe? Il existe dans mon interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Vous n'avez jamais vu l'être. Vous avez la main. C'est, voyez, comme on est là, en présence de quelque chose de tout à fait premier pour l'intelligence, l'erreur ou la confusion qu'on peut faire à l'égard de ce tout à fait premier a d'immenses conséquences. Pensez à la source du Rhône et la source du Rhin. Tous les Suisses connaissent bien ça. Et j'y étais parce que ça fait partie de curiosités intéressantes du reste. Et qu'il faut penser, quand on voit que la source du Rhin et la source du Rhône ne sont pas éloignées. Et quand vous regardez la différence du Rhin et la différence du Rhône, ils se tournent le dos. Alors, qu'est-ce que c'est que l'être? Ceci est. Il y a un passage entre les deux. Il y a comme une inversion qui se fait, puisque le verbe devient nom. Alors, c'est complètement fini. La distinction du verbe et du nom, c'est quand même fondamental. Si vous commencez à confondre le verbe et le nom, ça va plus du tout. Blanc et pierre. Non, blanc et pierre. Pierre et blanc. Et vous faites cette inversion. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? Il faut quand même essayer de comprendre, parce que ça a d'immenses conséquences au point de vue de la pensée. Je crois que là, on est vraiment au moment des deux philosophies possibles. Une philosophie néo-platonicienne, une philosophie aristotélicienne. C'est un intéressant de saisir l'origine des deux, puisque de fait, c'est la rivalité permanente. Certains ont dit une philosophie féminine, une philosophie masculine. Donc vous voyez, on transpose dans l'être l'homme et la femme, au plan philosophique. Réalité. Alors, il faut y réfléchir au moins. On va pas y réfléchir trop longtemps, mais il faut y réfléchir et y revenir souvent. Parce que autrement, on glisse si on n'y réfléchit pas. Je prends exprès, étant donné que c'est plus facile de comprendre ce que c'est que le blanc que ce que c'est que l'être. Je pose la question. La signification de blanc.
Existait. Et quand
l'inverse. Descartes, c'est en rouge. Qu'est-ce la signification, c'est premier. Et la réalité d'existence est second. Pourquoi? Parce que les idées sont innées dans mon esprit. Si les idées sont innées dans mon esprit, la signification de ces idées m'est donnée tout de suite. Qu'est-ce que c'est que l'infini? Pour Descartes, c'est inné. Le petit enfant dans son berceau, il a des rêves infinis. Qu'est-ce que c'est que l'infini? Puis tout d'un coup, il voit son père, mais tu n'es pas l'infini. Au point de départ, il croyait que son père était infini. Il avait projeté sur son père son idée d'infini. Puis un jour, il s'est aperçu que son père n'était pas infini, parce qu'il y avait sa mère aussi. Et puis il y avait un autre monsieur. Alors son père faisait partie d'une série. Et à partir de ce moment-là, plus aucun respect du père, tu m'as trompé. Et on s'est opposé au père. Et ça a été la mort du père. Venez, voilà. Toute l'histoire. Parce qu'on a fait de la signification quelque chose d'absolu. Pour Descartes, la signification est première, et puis on se pose la question, la réalité, est-ce que la réalité correspond à cet infini? Non, la réalité ne correspond pas à cet infini. Aucune des réalités que je vois ne correspond à cet infini. Alors, pour pouvoir dire que ma signification est vraie, il faut nécessairement que Dieu existe. Dieu existe. Celui qui est le gardien de la vérité. Si Dieu existe, mon concept d'infini est très bon. Mais si Dieu n'existe pas, mon concept d'infini est faux. Vous voyez, c'est très très important de comprendre cet ordre. Et ce qui est excellent, c'est que Descartes lui-même fait l'opposition avec Aristote. Donc il est très conscient de ça. Bien, la question que je pose, c'est celle-là. Donc, elle est présente. Chacun d'entre nous, nous devons faire le choix entre Descartes et Aristote. Nous n'avons pas encore fait un. Avant d'entrer à Saint-Jean, on a été cartésien parce qu'on a reçu ça comme éducation. Descartes, un grand bonhomme. Aristote a un peu moins évolué, enfin, selon l'évolution. Descartes, la science, c'est quand même, c'est à cause de la science que Descartes dit ça. C'est à cause de la science géométrique, arithmétique, à cause des mathématiques. Pour les mathématiques, le possible est antérieur à l'existé. Le possible, c'est la signification, antérieur à l'existé. Alors voyez le passage de la science avant la philosophie, Descartes. Et ça n'a l'air de rien, mais ce petit choix qui est au point de départ de ma métaphysique est capital. Je peux choisir la déviation cartésienne, et alors je m'enferme dans la signification qui est première. L'exister, c'est second. Ça n'a aucun intérêt pour un mathématicien. L'intérêt pour le mathématicien, c'est le possible. C'est la signification qui est intéressante. La réalité, elle est contingente. Elle peut disparaître. La signification demeure. Si donc je suis pour l'éternité, c'est la signification qui est première. Qu'est-ce qui me permet de rejoindre l'éternité? Mais c'est la signification. Le jugement d'existence, il me met dans la contingence. Quand on a très bien saisi ça, que le jugement d'existence, il est toujours contingent. Donc, il m'empêche absolument d'aller plus loin. Et Hegel, c'est la même chose. C'est la signification du en soi, tandis que le concret est impur, puisque c'est le blanc lié au mur. Et le blanc lié au mur, il est sale, parce que le mur est toujours sale. C'est ce qui se passe quand vous blanchissez la chapelle, au bout d'un certain temps, le noir apparaît. Premier jour, vous étiez blanc. Oh, admirable! Le mur disparaît, il n'y a plus que la blancheur. Comme c'est beau! Puis petit à petit, la noirceur du mur réapparaît. On n'avait pas mis assez de couches de blanc. Par pauvreté, vous voyez, la dame pauvreté, elle est du côté du mur. Séparer du mur et apparaître dans toute sa majesté et dans toute sa splendeur. Mais comme c'est curieux, ça, hein, cette espèce de lutte incessante entre jugement d'existence et signification, le passage du blanc à blancheur, ça paraît rien du tout, mais c'est capital. Et c'est là où vous voyez comment la métaphysique touche la structure profonde de l'intelligence face au réel. Ou l'intelligence qui tourne le dos au réel. Je suis supérieur au réel. Je suis intelligent. Et mon intelligence est capable de transformer le réel tout simplement par l'abstraction. J'abstrais. Et en abstrayant, qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être n'a plus la même signification que dans le ceci est. Mais quand je le dis comme ça, ça vous paraît une bêtise première loge, hein, bêtise, c'est exactement ce que dit Heidegger et tout le monde le suit. Pour Heidegger, dans le jugement d'existence, d'atour, je regarde les temps. C'est-à-dire toutes les réalités qui existent, elles sont limitées. Ce que Kant avait dit avant Heidegger. Tandis que quand je pose qu'est-ce que c'est que l'être, l'être n'est pas limité. Donc, si je prends non plus la signification de la réalité, mais la manière dont cette réalité existe,
le Mont Blanc existait avant.
avant moi. C'est pas moi qui pense le Mont Blanc et qui, grâce à ma pensée, le Mont Blanc existe. Pas du tout. Il a existé avant moi. Mes parents ont existé avant moi. Et donc je les respecte. Ils sont des sources d'où je viens. Et avant mes parents, il y en avait d'autres. C'est pas moi qui, par ma pensée, est source de tout. Alors, si la manière de penser l'être donne à l'être sa signification pure, c'est que la pensée est antérieure à l'être. Et par le fait même, je ne peux pas revenir à l'expérience. Le développement de la métaphysique m'enferme dans la pensée. À l'expérience, puisque l'expérience ne me mettra en contact qu'en face d'une réalité limitée. J'espère que vous voyez bien ça, parce que ça c'est capital. Quand saint Thomas fait la critique du néoplatonisme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le néoplatonisme ne connaît la réalité à travers la manière dont je la connais. Et donc, la manière dont je la connais, c'est ce mode abstrait. Je connais la réalité à travers ce mode abstrait. Et donc, c'est ce mode abstrait qui est la mesure de la réalité. Et donc, je ne connais plus la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle existe. C'est mon intelligence qui est le prisme par laquelle je connais la réalité. Je la connais dans mon intelligence. Et c'est comme ça que je la connais en soi. Puisque c'est mon intelligence seule qui permet d'isoler, de séparer la forme de la réalité. Donc c'est exactement le même procédé que le néoplatonisme. Ça c'est intéressant parce que ça montre combien le néoplatonisme revit dans Heidegger. Et si j'essaie de comprendre pourquoi cela, comment ça se fait, c'est le primat de la connaissance poétique. Dans la connaissance poétique, qu'est-ce qu'il y a de premier? C'est l'idéa qui est née de l'inspiration. Et à partir de l'idéa de l'artiste, l'artiste voit tout en fonction de son idéa. C'est l'inspiration qui est source de l'idéa. Si l'inspiration est source de l'idéa, l'idéa devient la mesure du réel. La pensée devient la mesure de l'être. Puisque je ne peux saisir l'être que dans la pensée. Donc c'est bien la pensée qui est la mesure de l'être. Donc je vois que le néoplatonisme, c'est la connaissance poétique considéré comme le premier analogue de ma connaissance. Comme ma connaissance modèle de tout le reste. C'est vrai de la connaissance poétique, c'est vrai de la connaissance mathématique. Alors vous aurez deux formes de platonisme, de néoplatonisme, un platonisme poétique Heidegger. Un platonisme mathématique, tout le primat de la connaissance scientifique et c'est le positivisme. C'est très curieux ça, et c'est très simple, et c'est ce que Kant a mis en pleine valeur quand il a mis la subjectivité transcendantale. Parce que la subjectivité transcendantale n'est vraie que pour les mathématiques et pour la connaissance poétique. Donc vous voyez, nous sommes là, et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est que nous sommes là en face, je ne dis pas d'une option, comme si on pouvait choisir l'un ou l'autre, mais je suis là, en présence de la découverte c'est-à-dire ce qui est réel, ce qui existe avant moi, autre que moi. C'est ça la vérité. Parce que ma connaissance est relative à la réalité. Tandis qu'au contraire, si je dis mais non, pas du tout, ma connaissance est supérieure à la réalité. Puisque elle peut mettre la réalité dans un état de splendeur. Qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être en soi. Et non pas l'être pour l'homme. Et non pas l'être pour le mur. Mais l'être en soi, c'est bien supérieur à l'être qui existe. Vous voyez, d'un côté, j'idéalise. De l'autre côté, je suis dans le réalisme concret de la réalité qui existe. Et d'autre côté, au contraire, je suis en face de la forme idéale. Et la forme idéale peut aller jusqu'à l'être. Heidegger, l'être en soi. Mais je crois que ça, c'est très important de comprendre, puisque on est tout proche de la pensée heideggerienne, on est tout proche de la pensée hegelienne. Alors il faudrait se demander pourquoi Heidegger quitte d'une certaine manière Husserl, et en quittant Husserl, est-ce qu'il quitte vraiment Hegel? Parce que c'est ça qui est intéressant au point de vue historique. Ça, c'est un petit nota historique. Vous avez H. Heidegger, Husserl, Hegel. Les trois H. Hegel est né Husserl, Husserl est né Heidegger. Mais faisons attention, chaque fois, ils sont nés, mais ils sont nés en s'opposant. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment nés. Puisque pour Hegel, on ne progresse qu'en s'opposant. C'est la pensée dialectique. Si je ne m'oppose pas, je m'identifie. Et je reste un pauvre type qui s'identifie. Je m'identifie à mon père, je m'identifie à ma mère. Je m'identifie à mon frère aîné, je m'identifie à mon ancêtre. Parce que dans la chambre dans laquelle on montrait mon ancêtre, c'était un drôle de bonhomme. Et je m'identifie à lui, vous voyez. Je me dis, bah oui, il revient en moi, c'est pas si mal après tout. Alors il faut au contraire se différencier. La différence vient première. Alors c'est très vrai, entre Hegel et Heidegger, il y a une fameuse différence. Heidegger met entre parenthèses l'existé pour rester dans l'idée. Alors que pour Hegel, le concept absorbe l'idée. Et le concept, la signification implique l'existé. Tandis que lui met la différence entre les deux. Et on laisse tomber, on met entre parenthèses, laisser l'exister. Heidegger veut retrouver l'être. Alors d'une certaine manière, Heidegger est plus proche de Hegel que de Husserl. Mais c'est le grand-père. Quand on dit qu'on ressemble plus au grand-père, c'est la dialectique, ça, vous voyez. Le fils s'oppose au père, et en s'opposant au père, il retrouve la source, le grand-père. Ça ne va pas être autrement. Les trois H. Et regardez la conception de l'être dans les trois. C'est très intéressant. Parce que là, vous avez le dialogue de l'être et de l'intelligence dans les Descartes dans toute sa splendeur et dans toute sa magnificence. Et c'est le concept qui prend tout. Le concept absorbe tout. Et dans le concept, la distinction entre le point de vue de l'essence et de l'exister est absorbée. C'est la signification qui prend tout. La signification du concept. Dans Heidegger, dans Husserl, on fait la distinction entre les deux. L'idée, et puis, on a mis entre parenthèses l'exister pour que l'idée soit libre. Parce qu'autrement, elle se mesure tout le temps à l'exister, ça ne va pas du tout. Pour que l'idée soit libre et complètement libre, on met entre parenthèses l'exister. Il y en a toute la méthode de Husserl qui est la fémologie. On regarde uniquement le développement de l'idée. En laissant l'exister. Vous voyez, il ne faut pas oublier que Husserl est un matheux. Husserl a fait une thèse de mathématiques et des mathématiques, il est passé à la philosophie. Et donc, on reste dans le possible. C'est le primat du possible. C'est le primat du possible. Et le possible est parfaitement lui-même que dans l'idée. Et pour que le possible soit premier, il faut mettre entre parenthèses l'être. Je le mets en prison. La vie entre parenthèses, c'est la mettre en prison. Je le mets en prison. Je l'écarte. Ça ne m'intéresse pas à l'exister. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que c'est pas moi. C'est évident, l'exister, c'est pas moi. Et chaque fois que je suis en face de l'exister, je suis en face de l'autre. C'est l'enfer. Donc l'exister, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que l'exister rappelle Dieu tout le temps, tout le temps. Mais remarquez que Husserl n'est pas athée. Hein. Les inédits d'Husserl sont à Louvain. C'est la grande gloire de Louvain, d'avoir les inédits, non pas les inédits d'Aristote, mais de Husserl. Alors c'est la grande gloire. Et dans les inédits de Husserl, la valeur. La valeur du tout. Dieu sait la valeur. Hein, vous magnifiez Dieu en disant que c'est la valeur. Donc Dieu existe parce que vous le magnifiez. C'est la valeur. La valeur suprême, c'est Dieu. Et Heidegger, alors lui, le primat du possible, c'est impossible. C'est pas du tout le primat du possible. C'est au contraire l'être. Alors il va essayer de retrouver l'être. Mais il ne s'aperçoit pas que penser l'être, ce n'est pas l'être au sens fort. C'est une des modalités de l'être. Et c'est la modalité de l'être qui est dans l'intelligence et donc qui demeure dans le possible. C'est très curieux, ça. Je vous affirme que c'est très intéressant de regarder ces trois. Parce que pratiquement toute la pensée moderne dépend de ou Heidegger, ou Husserl, ou Hegel. On a dit, tous les jésuites sont hegeliens. Tous les dominicains sont heideggeriens. Et les autres sont husserliens. Alors, je ne sais pas si les diocésains sont husserliens. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. C'est peut-être les husserliens, ils sont entre les deux. Ils veulent jouer un rôle d'intermédiaire entre les deux. Husserl. Bon, ceci, c'est nota bene, je reviens à mes moutons. Et mes moutons, c'est justement que pour première et substance seconde, qui sont les deux modalités de la substance, il y a la substance. Au-delà du mode concret, ceci est, et du mode abstrait, l'être, il y a l'être, qui n'est ni concret, ni abstrait. Pour que l'abstrait et le concret puissent exister, il faut qu'il y ait l'être. Si vous supprimez l'être, il n'y a plus d'abstrait et de concret. C'est ce qu'ils n'ont pas vu. Et c'est pourtant très simple. C'est l'être qui est abstrait. C'est l'être qui est concret. Donc il y a quelque chose de commun entre l'abstrait et le concret. Et ce chose de commun qui est l'abstrait et le concret fait le lien entre l'abstrait et le concret. Et ce lien entre l'abstrait et le concret est premier en face de ces deux modalités. Donc, au-delà de la différence, il y a la réalité. Et c'est cette réalité qui m'intéresse. Et une fois que je comprends que, au-delà de ces deux modes, abstrait, concret, qui sont tout simplement ma manière de connaître, c'est ma manière de connaître, je connais d'une manière concrète, je connais d'une manière abstraite, mais je connais la même réalité sous le mode abstrait et concret. Et je vois que le concret est toujours premier et que l'abstrait est second. Et donc, je peux, en ayant posé la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» revenir à ceci est. Mais vous voyez que ce retour à ceci est, est différent que l'aller, c'est-à-dire la découverte du jugement d'existence. Dans le jugement d'existence, l'être est relatif à ceci. Grâce à l'interrogation, je peux regarder dans ceci est, ne regarder que est. Donc, j'ai progressé. J'ai précisé ce que je recherche. Ce que je recherche, ce n'est pas les diverses manières d'exister du ceci. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'être dans le ceci. Et c'est l'être dans le ceci, puisque l'être dans le ceci est en acte. Il n'est pas seulement un mode abstrait. Il est ce qui est. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est de saisir l'être en tant qu'il est, pas selon son mode abstrait. Saisir l'être selon son mode abstrait, ce n'est pas saisir l'être. C'est regarder le mode abstrait. Et regarder le mode abstrait, ce n'est plus la métaphysique. C'est la critique ou la logique. Donc, vous voyez comment nous sommes conduits par la réalité. C'est la réalité qui me conduit et non pas mon intelligence. Quand c'est l'intelligence qui me conduit, attention à l'orgueil. C'est une position orgueilleuse, la position néoplatonicienne et la position heideggerienne. C'est de croire que je suis capable de donner à l'être sa signification. Husserl est moins orgueilleux parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il met l'être entre parenthèses. Donc, il fait une métamathématique et non pas une métaphysique. Une métamathématique. projeter sur l'ami ce que vous concevez de l'ami. Et vous vous cassez la tête. Parce qu'en réalité, c'est vous qui vous aimez. C'est pas du tout l'autre. Le réaliste dans l'amour, c'est d'aimer l'ami tel qu'il est. L'idéalisme, c'est d'aimer l'ami comme je le pense, miss idéal. Alors là, du côté de l'ami, vous voyez tout de suite que seule une philosophie réaliste sauve l'amour et que toute philosophie idéaliste, hegelienne, husserlienne, heideggerienne, ne touche pas à l'amour. Et là, vous comprenez la source de toutes les divorces. Au bout de quelques années qu'on vit ensemble, vous aperçoit que... Mais c'est pas du tout la personne que j'ai épousée. J'ai épousé mon idéal. Dans l'identification, j'ai épousé mon idéal.